J'aimerais parler ce soir sur le ministère d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1er, il est écrit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais, aussi taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Voilà, on connaît bien le prophète Élie par ses nombreuses paroles et miracles aussi qu'il a accomplis de la part de Dieu en confrontant notamment ce roi impie Akab et cette femme Jézabel qui poussait les prophètes de l'Éternel à se tourner vers les Baal, les Astartés, les faux dieux. Et donc Élie arrive à la fin de son ministère. Mais quand c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre cycle et c'est Élisée donc qui va être le successeur d'Élie. On peut le dire comme cela, car Élisée va être appelé par Dieu pour cette mission d'être un prophète et effectivement il va remplacer Élie après son départ. Le premier point c'est l'appel d'Élisée qui se situe un petit peu avant dans 1 Roi 19 verset 16. C'est une parole qui est donnée à Élie, qui est encore le prophète principal, il lui dit « Tu oindras Élisée pour prophète à ta place. » Donc il y a déjà une prophétie qui concerne Élisée, que c'est bien le choix de Dieu pour remplacer le prophète Élie. Et non seulement que Dieu a désigné Élisée, mais qu'il lui a donné l'onction. « Tu le oindras », ça veut dire qu'il aura l'esprit, la marque du Saint-Esprit sur son ministère, c'est Dieu qui va l'oindre, mais pour cela il y avait ce symbole, on oignait d'huile, donc un roi, un prophète, ou ici c'est un prophète ou un sacrificateur dans un autre cas de figure, en signe de consécration à l'Éternel. Et c'était le symbole que l'Esprit allait pouvoir l'utiliser, c'est comme s'il était mis à part pour le service de Dieu par cette huile. Et Élisée, donc, on sait qu'il était très actif, il était gérant d'une grande propriété avec des animaux, notamment des bœufs. Il avait 12 paires de bœufs qui étaient devant lui, il y avait un socle, il était derrière et il faisait le labour dans son champ. Donc c'était un homme qui était déjà en activité, mais Dieu avait vu son cœur pour le service. Et Élie, en signe d'appel de la part de Dieu, va prendre le manteau qui était sur lui et le jeter sur les épaules d'Élisée. Et Élisée va comprendre ce que signifie ce geste, parce que Dieu avait préparé certainement son cœur, et c'était pour lui un signe que maintenant Dieu l'appelait à devenir prophète, c'est-à-dire à quitter sa profession actuelle pour entrer dans un service plus approfondi, un service, on va dire, à plein temps. On peut servir Dieu de différentes manières, bien sûr. Tout le monde n'est pas appelé à quitter un travail. Ça a été le cas d'Élie, ça a été le cas d'Élisée. Mais en tout cas, il ressent comme un appel divin. C'est pas un choix proprement parlé seulement d'Élisée, mais il y a vraiment le doigt de Dieu qui vient sur lui. Il lui dit maintenant, tu dois arrêter cette activité pour te consacrer entièrement à moi. Et lorsqu'il comprend d'ailleurs l'appel au ministère, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller dire au revoir à sa famille, car il sait maintenant qu'il ne sera plus comme avant avec, j'allais dire, sa vie qu'il dirigeait lui-même comme il le voulait, mais que maintenant sa vie va être livrée entre les mains de Dieu. Et ça, c'est aussi un prix à payer. Et il l'a fait. Parce que Dieu nous appelle. Lorsque moi-même j'étais baptisé, j'avais à cœur de servir le Seigneur, je faisais des colonies de vacances, je servais parmi les enfants, et pour moi ma vision à l'époque c'était oui, je voulais bien servir Dieu, mais dans l'église, comme par exemple moniteur d'école du dimanche, ou alors dans les colonies de vacances. Voilà, c'était ma vision du service. Mais Dieu m'a appelé, il m'a arrêté sur cette voie. J'avais je me destinais à être donc dessinateur en publicité, j'avais fait les diplômes, j'allais travailler dans ce domaine. Et puis lors d'une réunion dans une colonie de vacances, le pasteur avait reçu pour chacun un verset qu'il a donné, et c'était un verset qui parlait d'être dans le service parmi les sacrificateurs dans le temple de l'Éternel. Et moi, j'étais un petit peu réticent à cette pensée de servir comme ça à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Je pensais bien le servir, mais à ma manière. Et la dame, je me rappelle, la monitrice qui était à côté de moi, elle me dit, ah, en lisant ce verset, on dirait que c'est un appel au ministère pastoral. Ah, je lui ai dit non, surtout, moi je ne voulais pas entendre ces mots en fait, je ne voulais pas entendre ces mots. Et immédiatement je les ai rejetés de mon esprit, en pensant que oui, ça pouvait très bien vouloir dire le service, mais pas nécessairement un service à plein temps, un service pastoral, un service plus engagé. Donc j'ai mis de côté ce verset. Mais voilà que deux jours après, la monitrice qui s'occupait des tout petits, moi j'étais avec les ados, elle a reçu du Seigneur une parole, et c'était David qui était choisi pour entrer dans son service, pour devenir roi. Il était oint, Samuel l'avait choisi et tout ça, et elle me dit, tiens, c'est de la part du Seigneur, c'est pour toi. Je me dis, on dirait que c'était comme si j'étais pourchassé. Cette personne ne connaissait pas le verset que j'avais eu. Elle a eu cette pensée, j'essayais vite de séparer les choses. Et puis le dimanche suivant, ça me trottait dans l'esprit, un don spirituel au culte. Et c'était un appel au service de Dieu. Et là, j'ai vraiment senti que ça s'adressait personnellement à moi avec les mots qui m'ont touché. Et quand je suis sorti du culte, avec les trois éléments qui se sont donc enchaînés en l'espace de quelques jours, eh bien, j'ai eu cette conviction que Dieu m'avait parlé pour me dire maintenant c'est le temps d'arrêter tes activités. C'est pas mon projet pour toi. C'était moi, c'était la publicité, c'était le dessin. Et Dieu avait une autre direction pour ma vie. Et donc, ben, j'ai été soulagé d'obéir. Finalement, j'ai obéi à Dieu, et il m'a mis le goût pour la parole de Dieu, il m'a mis le goût pour l'étude de la parole, pour approfondir les écritures. Bien sûr, j'aimais lire la Bible, mais j'ai eu un goût renforcé. Par contre, j'ai perdu le goût en parallèle pour la peinture, pour le dessin, pour la publicité, pour tout ce qui était en fait ma passion avant cet appel. Donc Dieu sait ce qu'il fait, et en même temps qu'il donne l'appel, eh bien il donne aussi les moyens, les qualifications, la motivation, l'envie du service. Tout est venu, et ça n'a pas été une peine pour moi, un fardeau d'abandonner le métier auquel je me destinais. J'ai travaillé une année dedans, néanmoins ça m'a permis d'économiser de l'argent pour payer des études biblique, mais néanmoins j'ai pas eu de peine à quitter ce travail, parce que Dieu avait mis un fardeau sur mon cœur qui était pour le service au niveau du ministère pastoral. Alors Dieu sait ce qu'il fait, et la Bible dit dans 1 Roi 19-21, Élisée suivit Élie et fut à son service. Ça a commencé comme ça, il a commencé par un stage, si on peut dire, par se mettre au service d'un prophète et voir comment il fait, et voir comment Dieu lui parle, et voir comment eh bien, on doit être sensible à la voix de Dieu. C'est pour ça que c'était très important pour Élie de donner un très bon exemple. Mais ce sont souvent comme ça que Dieu travaille. Il permet que des jeunes ouvriers soient au contact des ouvriers plus affermis pour pouvoir apprendre de le ministère. On le voit par exemple avec Moïse qui avait Josué à ses côtés. Josué l'a suivi un temps, il était aux côtés de Moïse, et puis quand Moïse est mort, c'est Josué qui a pris la relève. On le voit avec Élie quand il a reçu Samuel, le jeune Samuel qui était encore enfant, au temple, et il a enseigné à Samuel bien des choses sur Dieu, sur la parole de Dieu, comment entendre Dieu. Et quand Élie est mort, c'est donc Samuel qui a pris la relève. On le voit avec Paul et son jeune collaborateur qui s'appelait Timothée. Paul a écrit des conseils à Timothée, vous l'avez dans la Bible, 1er épître et 2e épître à Timothée, comment gérer une église. Il lui donnait des conseils, il lui écrivait comment faire. Et il lui dit dans 2 Timothée 2:3, « Ce que tu as entendu de moi », ça veut dire que Paul communiquait beaucoup avec Timothée pour lui expliquer les choses de la parole de l'Esprit de Dieu, donc Timothée apprenait. « Mais maintenant, tu l'as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, toi maintenant confie-le à des hommes fidèles qui soient à leur tour capables de le confier, de l'enseigner à d'autres. » Et on voit que Timothée ne devait pas interrompre cette chaîne de transmission, que ce que Paul avait fait c'était pour un temps. Maintenant, en fait, dans 2 Timothée, c'est sa dernière lettre, Paul est sur le départ. Il dit que sa fin est proche, il va servir de libation, c'est-à-dire il va comme être sacrifié. Eh bien, il reconnaît maintenant que c'est Timothée qui va prendre la relève, mais il lui dit, mais Timothée, toi aussi, tu devras trouver des plus jeunes, parce que Timothée va vieillir, augmenter en âge, et il devra trouver des plus jeunes pour leur communiquer ce qu'il avait reçu, pour que eux aussi puissent un jour le transmettre à d'autres si le Seigneur n'était pas revenu. Vous voyez, cette pensée-là, elle est très importante parce que ça nous parle de la transmission de génération en génération, de ne pas garder pour soi le dépôt, mais de bien communiquer l'Évangile. Ça, c'est le premier point, donc, l'appel d'Élisée, qui est survenu avant le texte qu'on a lu. Le deuxième élément, ici, c'est la perception d'Élisée, qu'il a des choses de Dieu. Il sait, il ressent dans son cœur que Dieu va enlever Élie de la terre. C'est quelque chose qu'il a reçu. Il y a une chose est de connaître avec l'intelligence, et autre chose est de connaître par l'esprit. Et nous ne devons pas simplement connaître avec notre intelligence, c'est très bien, mais c'est ce que Jésus appelle la chair et le sang. Et quand Pierre a une révélation spirituel par rapport à Christ, il lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont apporté cette révélation, c'est une révélation qui vient d'en haut. Et la chair et le sang, c'est donc, ça fait référence à la connaissance humaine et terrestre dont on a besoin de connaître les choses de cette vie, mais il existe une autre connaissance qui est une révélation spirituelle qui nous fait prendre conscience, eh bien voilà, ici c'est la bonne direction, ici il y a un danger, ou attention cette personne, ou alors cette personne c'est bon, etc. Un petit peu on est conduit par l'esprit parce que Dieu nous donne cette sensibilité spirituelle. Alors on peut avoir même une très grande connaissance, un peu comme Nicodème qui était un docteur de la loi, mais on pourrait dire c'est la connaissance de la chair, c'est la connaissance de la chair et du sang, la connaissance terrestre. Il ne connaissait pas par l'esprit encore les choses de Dieu, et Jésus lui dit, non, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc cette connaissance spirituelle va venir par la nouvelle naissance, par cette communion avec Dieu, par le Saint-Esprit. Et Paul, dans ses écrits, ne manque pas de mentionner l'importance de cette intelligence qui n'est pas terrestre mais qui est spirituelle. Par exemple, dans Colossiens chapitre 1 et au verset 9, il dit, nous demandons, il prie pour l'église de Colosse, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, donc nous approcher de Dieu, chercher sa face, connaître sa volonté, c'est une prière de Paul pour l'église, en toute sagesse, et il rajoute, et intelligence spirituelle. Donc Paul ne voulait pas qu'on se satisfasse juste d'une connaissance charnelle, il voulait qu'on puisse être rempli d'une intelligence spirituelle, cette intelligence qui vient de Dieu et qui nous permet de comprendre les choses spirituelles. Alors on peut dire qu'Élisée, il a cette connaissance qui est plus qu'une connaissance terrestre, il a la perception que Dieu va faire quelque chose, il le ressent comme dans son cœur, il a cette pensée que Élie va être enlevé au ciel. Il le croit dans son cœur. Ensuite, je remarque un deuxième élément concernant Élie, un troisième élément, c'est sa détermination. Car trois fois, Élie lui demande de le laisser, c'est pourtant son, on pourrait dire son maître, c'est son responsable, c'est son référent, il doit lui obéir. Et il transgresse cet ordre en désobéissant, je ne te quitterai pas. Et ça montre à chaque fois qu'il est persévérant, qu'il en veut, qu'il ne veut pas lâcher parce qu'il sait que Dieu va faire quelque chose en ce jour et qu'il ne veut pas manquer cela. Ça nous montre qu'on est éprouvé aussi dans le temps. Est-ce que nous allons rester fermes et fidèles à nos décisions, à notre engagement, à la pensée que Dieu a mise sur notre cœur? C'était une pensée qui venait de Dieu. Il va se passer quelque chose avec Élie, il va être enlevé. Mais à force d'entendre « Reste ici, je dois partir. Reste ici, c'est pas la peine. Tu ne dois pas. » il aurait pu abandonner au bout d'un moment. Ça montre donc une détermination au-dessus de la moyenne. Vous voyez, on a des exemples comme ça où on est éprouvé. Est-ce qu'on va persévérer alors que tout nous dit d'arrêter? Par exemple, dans le livre de Ruth, on sait que Naomi a perdu son mari et ses deux enfants. Et donc les deux belles-filles se sont retrouvées avec Naomi. Et à un moment donné, Naomi étant très âgée, bien sûr, elle ne pensait pas que les filles allaient rester avec elle, car d'autre part, il fallait bien qu'elles puissent se marier un jour et qu'elles puissent faire leur vie. Alors, il est dit dans Ruth chapitre 1 verset 14, « Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore, » il s'agit des deux donc belles-filles, « Orpa baisa sa belle-mère, » mais Ruth s'attacha à elle. On voit déjà une attitude différente entre les deux belles-filles. Orpa, eh bien, elle a dit, bon, c'est pas la peine de persévérer, je rentre dans mon pays, mais Ruth, non. Alors Naomi va encore essayer de la dissuader et va même la pousser à retourner vers son peuple. Verset 15, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et à ce moment, elle aurait pu céder. Elle aurait pu dire, bon, c'est vrai, ma belle-sœur est repartie, je suis toute seule, je vais peut-être trouver un mari parmi mon peuple. Et en plus, la belle-mère qui vous dit, retourne, c'est pas la peine que tu viennes avec moi. Bon, elle aurait pu tout à fait dire oui. Mais non, parce que dans son cœur, il y avait quelque chose par rapport à Dieu. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Vous voyez la détermination? Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et surtout, ton Dieu sera mon Dieu. On la voit ici, la détermination spirituelle. C'est que Ruth avait une plus grande connaissance spirituelle que Orpa. Orpa n'a pas compris qui était Dieu. Sinon, elle n'aurait pas lâché. Elle n'avait pas la détermination pour aller jusqu'au bout. Elle fait partie de ceux qui sont un temps au bénéfice de la grâce, mais quand une épreuve survient, ils abandonnent, ils retournent en arrière. Et elle continue. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée, là on voit la persévérance, à aller avec elle, elle cessa d'insister auprès d'elle. Et donc, Ruth va accompagner Naomi jusqu'en Israël. Et c'est là qu'elle va rencontrer son mari. C'est là qu'elle va être bénie et elle va rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais néanmoins, il a fallu qu'elle franchisse les étapes. Elle était poussée à abandonner et elle a persévéré. Ici, Ésaïe est poussé à abandonner, arrête de me suivre, ce n'est pas la peine. Et il persévère. Et nous devrons persévérer comme Élisée, comme Ruth, comme Jacob, dont il est dit qu'il a lutté toute la nuit avec l'ange qui venait, c'était le chef des armées de l'Éternel, et il lui disait, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. En voilà une détermination au-delà de la moyenne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il a eu gain de cause, il a persévéré, il a eu un nouveau nom, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur, il a eu une nouvelle vision, il a pu dire j'ai vu Dieu face à face ce jour-là, Il a eu de nouvelles bénédictions car sa hanche a été atteinte, il a été boiteux, mais cette faiblesse a été pour lui une occasion de grandir, une occasion de croissance. Souvent, les difficultés que nous rencontrons nous permettent de grandir. Vous voyez, cette faille est importante. On peut penser à cette écharde qui était placée dans l'apôtre Paul pour le maintenir dans l'humilité. Et ça a permis à Paul d'aller beaucoup plus loin. Voyez, cet évangéliste qui était internationalement connu, Smith Wigglesworth, il priait dans des missions d'évangélisation, il y avait même des guérisons qui se produisaient, mais lui-même était atteint de calculs qu'il n'a jamais, il n'en a jamais été débarrassé. Il avait cette maladie qui le poursuivait et qui le faisait tellement souffrir que des fois il pouvait rester là une heure, deux heures enfermé, il ne pouvait rien faire à cause des calculs rénaux qui le faisaient mal. Et en même temps, il avait cette onction pour pouvoir prier pour les malades. Et bien cette maladie l'a maintenu quand même dans un état de dépendance de Dieu, dans un état d'humilité, et il a pu servir le Seigneur pendant des années. Et malgré cela, eh bien, ça n'a pas empêché l'œuvre de Dieu de se faire. Alors voilà des exemples de détermination, être déterminé. Il y a même dans l'histoire des gens qui nous donnent des leçons. Je pense à cet homme qui s'appelle Stephen Aquari. C'est en 1968 aux Jeux Olympiques à Mexico. Il a fait le marathon, c'est-à-dire les 42 kilomètres, mais au milieu du parcours, il s'est disloqué le genou. Et donc beaucoup disaient il va abandonner. Il a continué malgré la souffrance, la douleur. Il a continué. Alors bien sûr, tout le monde était parti parce que tous étaient arrivés, enfin tous ceux qui ont terminé, car beaucoup avaient abandonné encore en cours de route. Et les lumières étaient éteintes dans le stade et les gens partaient. Il y avait 10 000 personnes pour accueillir les premiers. Là, il y en avait même pas 2 000, mais ils ont vu arriver 2 heures après tout le monde cet homme. Il a achevé son marathon, on peut dire. Il a fini sa course en tournant. Alors il boitait, il titubait, et les gens se sont levés quand même pour acclamer son exploit. C'était un véritable exploit. On peut dire que c'était, c'est resté d'ailleurs célèbre dans les courses olympiques, car même s'il n'a pas gagné la médaille d'or, il était bon dernier du marathon, en tout cas. Il a accompli une course extraordinaire en montrant sa détermination à ne pas lâcher. Et un reporter l'a interviewé à la fin et lui a dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas abandonné alors qu'on aurait tout à fait compris vu l'état de vos jambes qui étaient disloquées, ils ne marchaient pas normalement ?» Eh bien, personne ne vous en aurait voulu. Et le jeune homme a répondu « Mon pays ne m'a pas fait parcourir 5 000 miles pour commencer la course, mais pour la finir. » Voilà. Il était dans un état de détermination absolue, et peut-être pour nous c'est aussi un exemple de détermination dans la course, puisque Paul dit nous ne regardons pas ce qui est en arrière, nous portons vers ce qui est en avant, je cours vers le but, et on pourrait dire je cours avec détermination. Il n'est pas question d'abandonner avant la fin. Au verset 8, on a un quatrième élément, c'est le passage du Jourdain avec le manteau qu'il va frapper sur le sol. On retrouve les mêmes éléments dans le Nouveau Testament, d'ailleurs avec par exemple les linges de Paul. Quand c'est dit dans Acte 19 que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient, les esprits impurs sortaient. Ce sont des miracles qui sont accomplis au travers de vêtements. Ça arrivait dans l'Ancien Testament, c'est arrivé dans le Nouveau Testament. On sait que 4 croyants ont partagé les eaux pour passer à sec. D'abord, il y a eu Moïse qui, a face à la mer Rouge, a prié, la mer s'est ouverte. Il y a ensuite, ça a été Josué devant le Jourdain quand le peuple a dû rentrer pour conquérir le pays promis. Eh bien, ils ont passé à sec le Jourdain, et nous avons Élie qui l'a fait ici, et par la suite Élisée qui a aussi utilisé ce manteau pour ouvrir le Jourdain. Voilà les miracles que Dieu fait. Donc ce sont des miracles toujours extraordinaires. On sait que Pierre a marché sur l'eau, on sait que Jonas a été attrapé au fond de l'eau, mais on voit qu'à chaque fois ça a été un miracle. Alors peut-être des fois on passe à travers l'eau, des fois on va passer sous l'eau, des fois on va aller sur l'eau, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de continuer à avancer et ne pas lâcher le Seigneur du regard. Jésus nous a même dit qu'on aura le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Vous savez qu'il y a des serpents qui sont si puissants que leur venin, en 3 heures seulement, un éléphant, il meurt. Par exemple, un cobra royal va le faire périr, alors que le serpent, comparativement à l'éléphant, il est tout petit. Mais en réalité, il a le venin qui est puissant. Eh bien, c'est ça que nous avons, nous, quand nous avons la foi, nous pouvons marcher sur ces serpents, c'est-à-dire toute la puissance de l'ennemi, qui est comme un venin qu'il veut inculquer, et nous n'avons pas à craindre l'adversaire. Au verset 9, dans notre texte, il y a la prière audacieuse d'Élisée qui se fait monter. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il a soif de voir la gloire de Dieu dans son ministère, dans sa vie. Alors la double portion, c'est quoi? C'était la part du fils aîné dans la famille. On sait que le fils aîné, il avait la double portion. C'était comme ça dans les us et coutumes. Eh bien, il s'attendait à être comme un fils aîné, comme à recevoir l'héritage qu'avait déjà reçu Élie. Et puis, il s'attend à aller plus loin qu'Élie. Et c'est vrai que nous pouvons nous attendre, par la grâce de Dieu, à aller toujours plus loin. Élie avait fait 8 miracles qui nous sont rapportés. Et si vous lisez la suite du livre des rois, vous verrez que Élisée, il y en a 16 miracles qui sont apportés, soit 2 fois plus. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Alors attendons-nous à ces plus grandes choses, en plus grand nombre, à travers toute la surface de la terre, jusqu'à Verdun-sur-Garonne, en tout lieu où la parole est annoncée. Ben, il a été exaucé. Et puis je termine avec le point 6, c'est le 11e verset, quand tout d'un coup, alors qu'ils sont en train de marcher, des chars de feu viennent enlever Élie au ciel dans un tourbillon. Ce n'est pas le premier qui part d'un coup, il y avait déjà Hénoch dans le livre de la Genèse qui a marché 300 ans avec Dieu, et Dieu le prit du jour au lendemain. Et puis ça nous parle d'un enlèvement qui doit venir, cet enlèvement d'Élie, c'est l'Église, car du jour au lendemain, quand le Seigneur, au son de la dernière trompette, il y aura cet appel, maintenant c'est l'heure, et bien l'Église sera enlevée, un peu comme Élie, elle sera enlevée d'une seconde à l'autre et elle disparaîtra dans les nuées à la rencontre de Christ. Jésus le dit très clairement, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. C'est pourquoi nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement du Seigneur, il y en a beaucoup qui avancent des dates. J'ai reçu encore il y a quelque temps un livre entier. Le livre entier, la couverture, c'était marqué « Retour de Jésus le 14 septembre 2015 ». Bon, ça fait un moment que je l'ai reçu. Ouais. Oui, oui, oui. Il s'appelle Claude Inierski. Il a envoyé ce livre à tous les pasteurs. Ça a dû lui coûter cher. Il l'a fait imprimer. Donc évidemment, il l'avait envoyé avant le 14 septembre, certainement dans les 6 mois avant, on l'avait reçu. Et un livre compliqué avec des calculs, tout le livre, il y avait 300 pages. 300 pages pour vous expliquer que la date du retour de l'enlèvement de l'Église, c'était le 14 septembre 2015. Vous voyez, comme quoi, le temps perdu pour des bêtises. Et ce qui est attristant chez ce genre de personnes, c'est qu'il remet ça, une deuxième fois. Alors, c'est très proche, c'est au printemps 2018. Printemps 2018, maintenant, il le fait sur Internet, ça coûte moins cher, mais il annonce le retour de Jésus pour printemps 2018. Bon, je pense que là, on s'égare. Voilà, il a tout revu ses calculs, mais je pense encore qu'il fait fausse route, et on n'a pas le droit de faire ça. Donc je pense que c'est une erreur.
Donc c'est le mois prochain.
Il ne reste plus qu'un mois.
Il y a plein de gens qui le suivent. Hein.
Oui, c'est sûr. Il est sur Internet. Alors attention, car Jésus l'a dit, hein, nul ne peut savoir ni le jour ni l'heure. Et ceux qui le font, on peut les catégoriser au niveau des faux prophètes. Des gens qui disent des choses fausses, parlant de la part de Dieu, car lui, il se pense inspiré de Dieu. Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui seront décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange. Donc il y aura le son de la trompette de Dieu. Jésus descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ça c'est la description que Paul reçoit de l'enlèvement de l'Église. C'est un enlèvement dans les airs à la rencontre de Jésus, il ne revient pas encore sur la terre. Alors en conclusion, l'enlèvement d'Élie nous parle de l'enlèvement de l'Église, qui est le prochain événement dans le calendrier des événements de Dieu. Élie savait qu'il allait être enlevé. De même, nous, l'Église, nous savons que nous allons être enlevés. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, c'est vrai, mais nous savons que ça peut arriver, survenir subitement, du jour au lendemain. D'ailleurs, Élie, quand il a disparu, personne n'a trouvé son corps. Les 50 prophètes qui étaient de loin, qui avaient vu la scène, ils ont demandé la permission d'aller chercher s'ils retrouvaient quelque part le corps d'Élie qui serait retombé, comme s'il avait fait un saut très haut et puis qui serait retombé quelque part. Non, il leur a dit non, mais puis ils ont insisté, alors il les a laissés aller et ils ne l'ont pas trouvé, bien sûr, car il a été enlevé au ciel. Et c'est d'ailleurs pour cela, cet enlèvement d'Élie, les Juifs attendent toujours le retour d'Élie. C'est mentionné dans une prophétie de Malachie, chapitre 4 et verset 5. Il est dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est-à-dire pour eux, c'est avant la venue du Messie. Mais on sait par le Nouveau Testament que l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Et eux, les Juifs, ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas saisi. Et ils attendent toujours, donc, l'Élie qui doit venir et qui juste précédera le Messie. Mais c'est déjà fait, c'est déjà accompli, et c'est pourquoi le Messie va revenir d'une manière glorieuse maintenant pour enlever son Église. Prions un instant. Merci encore pour ta parole qui nous donne ces indications précieuses sur la persévérance, la foi, l'endurance, ne pas baisser les bras, à ne pas nous laisser contaminer par le découragement, Seigneur, mais à comme Élisée, à être persévérant en ne lâchant rien. Merci de bénir chacun, de fortifier encore nos cœurs dans ta présence, de toujours être prêt pour ton retour, car tu peux survenir, il peut survenir d'une minute à l'autre. Nous voulons être toujours vigilants, veillants et priants comme tu nous l'as enseigné. Et merci pour cette soirée. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Amen. Amen.